Bernard, bonjour, une nouvelle émission de mai de résistance, l'émission des gens qui résistent contre l'oppression ou contre la manipulation d'informations, qui toutes ces petites billes faisées du quotidien qui font que à terme on se retrouve dans une société qu'on ne maîtrise pas, nous citoyens. Aujourd'hui, notre invité Bernard Cornu, qui était déjà venu, nous avons déjà diffusé une émission que nous avons réalisée avec lui, où nous avions à l'époque parlé de la question pétrolifère, la question des gisements de pétrole au Moyen-Orient, en Russie, mais surtout au Moyen-Orient, avec la fameuse question cruciale irakienne et syrienne. Bernard, bonjour. Donc, je ne te présente plus. Auteur et essayiste en géopolitique et en histoire, d'abord polytechnicien, ingénieur civil du génie rural et des eaux et forêts, qui est donc quelqu'un qui a bien fait ses preuves dans nos institutions, et ensuite quelqu'un qui a vécu quand même 14 ans dans 6 pays de l'ex-Empire ottoman et qui y a été expert en efficacité énergétique et environnement. J'ai une question à te poser, Bernard, après que tu aies peut-être un petit peu parlé de toi, c'est au cas où j'aurais oublié des choses importantes. Qu'est-ce que c'est pour toi que l'Empire ottoman ? Puisque tu nous parles, quand tu te présentes, tu nous dis « j'ai résidé dans 6 pays de l'ex-Empire ottoman au cours de ma carrière ». Et moi, la question que je me pose, c'est de savoir qu'est-ce que c'est que ce fameux Empire ottoman ?
Oui, bonjour. Oui, c'est un empire qui a duré 5 siècles à peu près, enfin, 15e siècle jusqu'au début donc, du 21e siècle, quand il a été, disons, dissous par la guerre de 14-18, la guerre européenne. Et donc, il s'étendait sur une très grande surface depuis l'Algérie, le Maroc ayant échappé à son emprise. Donc de l'Algérie, la Libye, la Tunisie, la Libye, Cyrénaïque, Tripolitaine, comme on les appelait à l'époque, l'Égypte, et tout le Moyen-Orient, c'est-à-dire Palestine, Syrie, Irak, une partie de l'Arabie sur les côtes et du côté Al-Hassa, de le côté des provinces pétrolières. C'est d'ailleurs des conquêtes plus récentes, puisque les Anglais étaient déjà établis sur le Golfe et se sont battus pour résister à l'emprise ottomane. Et la frontière, bien sûr, tous les Balkans aussi, puisqu'ils sont venus jusqu'à Vienne, à faire le siège de Vienne, sans succès. Il en reste quand même le café turc à Vienne et l'eau avec le café. Et des souvenirs difficiles dans les Balkans, qui ont secoué le joug ottoman très rapidement, donc au milieu du XXe siècle, et avec les guerres balkaniques de 1911, 1912-13, qui ont été très dures. Et puis l'invasion de la Libye, enfin des côtes libyennes, par les Italiens en 1911. Et d'ailleurs, l'Autriche récupérait la Bosnie-Herzégovine. Donc tout cet empire a duré très longtemps, une marque très importante. La langue ottomane était écrite avec les caractères arabes. Il y avait une représentation, une forte décentralisation de la collecte des impôts, qui était l'essentiel pour l'Empire ottoman, pour assurer son financement. Et il y avait une formation de militaires ottomans, mais aussi dans les provinces arabes. Et donc cet encadrement était quand même compatible avec une certaine liberté ou autorité des communautés chrétiennes, différentes communautés. Et il y avait une organisation quand même assez forte, mais surtout militaire et fiscale, hein, au niveau des provinces ottomanes, qu'on appelait des vilayettes, ce qui a donné aussi le vilaya en Algérie, par exemple. Et ça a duré très longtemps, 4-5 siècles. C'est une emprise culturelle, administrative très forte. Alors, vers les années 1840-50, il y a eu des réformes sous la pression comme des demandes de modernisation par des gens, des différentes provinces ottomanes qui avaient été en Europe et qui savaient ce qui se passait en Europe. Il y avait une presse qui a été créée au Liban, assez importante, des écoles, des universités. Donc il y a toute une période de modernisation qu'on appelle en arabe la Nahda, la Renaissance. Et aussi pour les Turcs qui sont partis de Macédoine, de l'Empire ottoman vers l'Europe, tout ceci a poussé vers la fin du 19e siècle à un besoin de modernisation, de décentralisation, de démocratie. Et cela aboutit d'ailleurs à la demande, à la suite de manifestations et de la demande de rétablissement d'une ancienne constitution qui avait été abolie et un espoir au moment du coup d'État des jeunes Turcs vers 1908, enfin de la prise de pouvoir des jeunes Turcs, ensuite la destitution du sultan Abdelhamid, il y a eu un espoir que l'Empire ottoman pouvait se démocratiser, pouvait mieux respecter les différentes communautés, mais qui a été vite terni, disons, par les agressions faites par l'Italie, ensuite par les peuples des Balkans qui se sont soulevés et qui ont mené des guerres terribles dans lesquelles certaines grandes puissances sont intervenues plus ou moins, mais sans vouloir freiner totalement ces guerres. Enfin, elles sont parvenues à les limiter dans l'espace et dans le temps, mais c'était terrible et ça a provoqué au contraire un raidissement des Turcs, des jeunes Turcs, envers les autres communautés. Alors, mais il faut savoir que vu de l'Europe, l'Empire ottoman était effectivement un empire musulman, un empire qui était limitrophe de l'Europe, qui avait fait des conquêtes, qui était bien armé, bien équipé, avec beaucoup de troupes, disons, mercenaires. Et je cite souvent les voyages de Volney, 1825, édité en 1825. Volney a été allé en Orient, il a écrit des voyages en Orient. Il y a dans l'édition de 1825 une carte qui parle déjà dans la légende, voilà, carte pour le partage éventuel de l'Empire ottoman. Donc déjà 1825, c'était envisagé. Il faut rappeler aussi les conquêtes, les expéditions de Napoléon en Égypte et en Palestine pour essayer de prendre pied dans cette région. Et ensuite, les créations d'universités, d'écoles par des missionnaires venant de France, venant d'Allemagne, venant d'Amérique, qui ont participé effectivement au développement d'éducation, donc à la montée des prises de conscience, des volontés de démocratisation. Donc tout ça, on arrive à la veille de la guerre de 14, et on en a parlé dans la précédente émission, dans lequel on peut constater, on peut constater que les grands empires de l'époque, l'Angleterre, l'Empire britannique, avec l'Inde qui lui apportait beaucoup d'argent, qui maîtrisait les mers par ses flottes de guerre et ses flottes commerciales, face à l'Empire russe qui essayait de pénétrer un peu en Asie par l'Afghanistan, par les provinces asiatiques de l'Empire russe. Et donc l'Angleterre craignait ça. Et aussi on avait l'Empire allemand qui, lui, avait eu peu de colonies, essayait d'en créer dans l'Est de l'Afrique, en Indonésie, et souhaitait développer sa flotte commerciale et aussi sa flotte de guerre, ce qui provoquait la fameuse compétition navale entre l'Angleterre et l'Empire allemand, donc qui s'est passée dans les années entre 1900 et 1914, quoi. Donc l'Empire britannique voulait contrôler la Mésopotamie, ça a été établi à Koweït en 1899, fermement, contrôlait Bahreïn, la côte des pirates, qu'on appelait la côte des pirates ou la côte de la trêve, parce qu'il y avait du cabotage venant de Bombay, de l'Inde, et qui amenait, qui permettait le commerce. Et les Anglais voulaient aussi protéger Suez, donc ils tenaient beaucoup à contrôler la Palestine pour ça. Et donc on a aussi l'Empire allemand qui voulait s'étendre, qui avait pu, en 1902, signer un contrat de concession pour établir un chemin de fer, qu'on appelle brièvement le Berlin-Bagdad-Bahn, le chemin de fer Berlin-Bagdad, mais c'était un contrat en fait pour le tronçon de Konya, qui est une ville de Cappadoce centrale, jusqu'à Bassora. D'ailleurs, en juin 14, les Anglais, qui n'avaient pas du tout envie que les Allemands arrivent sur le Golfe, sont arrivés à négocier avec les Allemands pour reprendre en concession le tronçon de Bagdad à Bassora. Et donc les Allemands ont fait leur chemin de fer, mais même pendant la guerre de 14, même s'ils ont fait beaucoup d'efforts pour aller vite dans les travaux pendant la guerre de 14, ils ne sont pas arrivés à établir complètement la ligne au-delà d'Alep pour ça. Donc il y avait toujours des transbordements de matériel parce que le chemin de fer était coupé, il fallait recharger les choses sur des camions ou des chariots avec des ânes, des bœufs, etc. Donc ça a beaucoup gêné l'approvisionnement des Allemands qui étaient en guerre à côté de l'Empire ottoman pendant cette guerre européenne de 14-18. Voilà. Juste pour conclure un petit mot, c'est que les Russes aussi voulaient les détroits parce qu'ils exportaient du blé à l'automne à travers les détroits. Ils voulaient avoir les maîtrises. Donc même en printemps 14, ils ont fait un plan tout à fait officiel, secret à l'époque, mais qui était officiel dans l'Empire russe, pour conquérir les détroits et Constantinople. Voilà. Donc ce que je voulais dire, c'est qu'avant la veille de la guerre 14, tous les grands empires européens voulait le démantèlement de l'Empire ottoman et contrôler certaines parties, les bons morceaux.
Voilà. Mais entre-temps, on a quand même une lueur d'espoir avec les accords Sykes-Picot de mai 1916. Dans ta chronologie, tu les as mis en évidence, puisque tu nous parles de l'avant 1914 et puis d'après 1914. Et les accords secrets des Sykes-Picot sont signés le 16 mai 1916. Entre la France et la Grande-Bretagne, tu peux aller avec l'aval des Russes et des Italiens, je ne me trompe pas.
Tout à fait, qui ont tenu informé des négociations et ils ont eu copie de l'accord.
Prévoit le partage du Moyen-Orient à la fin de la guerre. Alors, est-ce que tu peux nous en dire davantage là-dessus ? Qu'est-ce que toi, tu en penses ? Est-ce que tu veux que ce soit moi qui rappelle les différentes zones ou est-ce que...
Ouais, je vais en parler. Ouais. Bon, la France, l'Angleterre... Tsariste et l'Angleterre étaient alliés. Et l'Italie s'est rejoint à eux plus tard, c'est pour ça qu'elle est informée. Donc ils se sont, dès 1915, il y a eu des négociations, je l'ai évoqué tout à l'heure, les Anglais étaient très déterminés à contrôler Mésopotamie. Et donc, vous avez dit que cet accord est un espoir. Non, c'est un accord secret entre puissances belligérantes pour déterminer les buts de guerre et le partage de l'Empire ottoman. Les Anglais ont beaucoup insisté pour contrôler toute la Mésopotamie, mais la France, par ses chambres de commerce de Lyon, de Marseille, voulait contrôler toute la Syrie, qu'on appelait intégrale à l'époque, c'est-à-dire y compris le Liban, mais aussi la Cilicie, c'est-à-dire les provinces du sud-est turc, de Adana jusqu'à Diyarbakir, en zone turque, à cause des minerais de plomb argentifère, à cause des mines de cuivre, et à cause du potentiel dans les plaines de Cilicie, qui a été irrigable par des grands fleuves, pouvoir développer le coton et le blé. Et donc la France, le parti colonial français, avait écrit au Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Briand, Aristide Briand, pour que la France maintienne ce contrôle-là. Et comme à Mossoul, on faisait la mousseline qui était exportée vers la France, un textile fameux à l'époque, via Alep et la côte syrienne, les Français voulaient aussi garder la région de Mossoul. Et d'ailleurs, Briand, dans ses instructions du 2 novembre 1915, à son négociateur, c'est-à-dire Georges Picot, qui avait été diplomate en poste à Beyrouth, connaissait bien la région, il avait écrit des articles sur la région, il lui dit comme instruction de revendiquer auprès des Anglais toute cette région, la Syrie intégrale, la Cilicie, c'est-à-dire le sud-est de la Turquie, et la région de Mossoul. Mais il dit quand même, concernant la région de Mossoul ou de Kirkouk, il est probable, il faut s'attendre à ce que les Anglais n'entrent pas dans nos vues. En fait, dans les accords Sykes-Picot, la région de Mossoul revient à la France sous l'influence française. Et ce n'est qu'après la guerre. Les Anglais avaient conquis la Mésopotamie par leurs armées, avec beaucoup d'Indiens, d'ailleurs des gens, des militaires qui venaient de l'Inde. Même après l'armistice dans l'Empire ottoman, qu'on appelle l'armistice de Mudros, le 30 octobre 1918, donc un peu avant l'armistice en Europe, les Anglais ont continué à progresser pour tenir toute la Mésopotamie. Et c'est le 2 décembre 1918, donc quelques semaines après l'armistice, suite à des pressions des députés lyonnais, poussés par les industriels lyonnais de la soie, ces industriels, ces députés ont dit à Clémenceau, les Anglais contrôlent la Syrie, il faut à tout prix la récupérer, sinon ils vont avoir le monopole de la soie, faites tout ce qu'il faut pour récupérer le contrôle de la Syrie, sinon on fait une motion de censure. Et donc le 2 décembre... Clémenceau est parti à Londres voir le Premier ministre, Lloyd George, et ils ont discuté. Et Clémenceau a dit « qu'est-ce que vous voulez ?» aux Anglais. Les Anglais ont dit « la Mésopotamie », il a dit « vous l'aurez ». Voilà. Et donc, en échange, l'Angleterre a accepté de prévoir de retirer ses troupes, et d'ailleurs le roi qu'il avait installé, le roi Faisal, retirer ses troupes de Syrie pour laisser l'armée française qui était cantonnée à Beyrouth pour les venir conquérir la Syrie et installer plus tard un mandat. Voilà, ce qui a fait des bagarres mémorables à Maïsaloun en 1920, en juin, je crois, et qui fait que les Français ont pris le contrôle de la Syrie. Contre l'avis de la plupart des nationalistes syriens, d'ailleurs, et avec beaucoup de drames ensuite, de révoltes de Syriens dans différentes régions de la Syrie, contre ce mandat français institué ou validé par la SDN, mais qui était la volonté de ce qu'on appelle le parti colonial français. Voilà, donc ça, c'est les premiers... conséquence des accords Sykes-Picot, mais ce qui fait que symboliquement, quand en 2014, pendant l'été, l'État islamique a mis des bulldozers pour sortir les talus qui marquaient un peu cette frontière dans le sable, en fait, ce n'était pas exactement dans cette région-là, entre la Syrie, l'Irak, la frontière Sykes-Picot, puisqu'elle avait été modifiée dans des négociations discrètes. Et ensuite, entre Clemenceau et le Premier ministre britannique, et juste après la guerre, parce que les Anglais occupaient et voulaient cette région depuis longtemps, et la contrôlait à cause du pétrole, c'était explicite, ça a été dit secrètement dans des mémos secrets, mais qui sont publiés maintenant. Et donc la frontière a été là. La France avait perdu Mossoul. En revanche, les Anglais lui avaient concédé une part de la compagnie turque des pétroles, qui est devenue après la compagnie irakienne des pétroles, mais une part minoritaire. Et de toute façon, les Anglais contrôlaient l'essentiel, c'est-à-dire le territoire et la compagnie, la concession pétrolière. Mmh. Alors. Oui, ces accords ont été révélés par Trotsky quand les bolcheviks sont venus au pouvoir en 1917. Et du coup, ça fait un tollé dans les pays arabes, parce que les pays arabes se sont rendus compte que les Anglais avaient joué double jeu. Ils avaient promis aux pays arabes, via le shérif Hussein de la Mecque, de les aider à faire un grand État arabe, avec quelques exceptions, la côte du Liban, la Palestine, tout ça, parce qu'il y avait d'autres demandes, et qu'en même temps, les Anglais avaient négocié un accord secret avec les Français, donc avaient fait des promesses contradictoires.
Très bien. Moi, j'ai une question, enfin, j'ai juste une petite question à poser. Juste avant qu'on passe un petit peu de musique, pour faire une pause musicale, ça nous permettra tous de souffler.
Quelle est la différence exacte entre les accords Sykes-Picot et le traité de Sèvres? Est-ce que ça tient principalement au règlement du sort des Arméniens et des Kurdes, deux minorités qui aujourd'hui encore font parler et qui constituent un enjeu crucial pour le Moyen-Orient?
Les accords Sykes-Picot, c'était une carte avec différentes catégories de contrôle et d'influence. Exclusive ou pas exclusive, par exemple sur la Palestine, c'était une influence partagée, mais ce n'est qu'après après la fin de la guerre, lors des négociations de la conférence de paix, et ensuite le traité de Sèvres, dans lequel il y avait la création d'un État, un territoire kurde et d'un territoire arménien, les Anglais voulant d'ailleurs, parce que c'est explicite, on le sait dans les documents de négociation, que les Anglais voulaient ménager des territoires entre leur contrôle de la Mésopotamie, qui était très intégré à l'Empire britannique, hein, pour ces questions pétrolières, et l'Empire russe, avec lequel ils s'étaient battus après la guerre dans le Caucase, pour le contrôler, l'influence.
Oui.
Voilà. Mm-hmm. Il y avait les Allemands, il y avait les Russes, d'abord les troupes tsaristes, mais ensuite les troupes bolcheviques. Mais il y a eu des combats très durs dans le Caucase pour le contrôle de ces régions pétrolières et de l'accès à la Mésopotamie. Donc c'est pour ça que les Anglais voulaient créer un État arménien, un État kurde, pour pouvoir avoir des pays qui les séparaient de l'Empire russe.
Oui, très bien.
Alors... Mais ensuite, les Ottomans, enfin, Atatürk qui a repris le combat contre l'occupation par les Français dans le sud.
C'est le traité de Lausanne, mais on verra voilà. Après,
mais
si
c'est
tu
parce
veux bien.
Que ouais. Atatürk a eu une attitude de résistant contre le maintien des troupes britanniques, françaises et italiennes, et même la venue de troupes d'occupation grecques dans la région de Smyrne. Il a repris le combat, il s'est battu. Il n'y a pas eu de mort autant que pendant la Première Guerre mondiale, mais il a obtenu l'évacuation pratiquement vers 1920-1921 de toutes ces troupes étrangères.
Oui.
C'est pour ça qu'il était en position de force pour négocier. Et en 1921, les Français ont signé un premier traité avec Atatürk, ont reconnu la République turque à l'escrire, enfin le pouvoir d'Atatürk, la souveraineté, Et les Anglais, ils ont mis quelques années de plus. C'est en 1926 qu'ils ont accepté de faire un traité final avec entre les Anglais et Atatürk. Voilà.
Oui.
Donc c'est là, à ce moment-là, dans les négociations du traité de Lausanne, en 1923, que la Turquie étant de nouveau en position de force, alors qu'avant elle était un pays vaincu, éclaté, ils ont pu éviter et abolir ce traité de Sèvres et donc éviter la création d'un État... l'extension de l'État arménien qui était passé sous contrôle soviétique, la province arménienne, pas d'extension sur le territoire turc d'Anatolie et pas de création d'un État kurde.
D'accord. On reviendra plus tard sur cette question d'un État kurde. En attendant, nous venons de parler de l'Arménie. Nous allons passer un disque qui est de toi, puisque c'est toi qui choisis ta propre musique. C'est un disque arménien. Est-ce que tu peux nous en parler?
Alors c'est un disque, plusieurs disques qui sont dans l'influence de l'Empire ottoman, très large. C'est un disque de musique liturgique arménienne, puisque les Arméniens sont chrétiens.
Du Moyen-Âge.
Ils avaient un peuplement assez ancien du côté de la Cilicie, du côté d'Adana, et un autre peuplement du côté de l'Arménie actuelle, mais qui débordait très largement dans les provinces de l'Est de la Turquie, où ils étaient disons, une minorité, mais importante, de l'ordre de peut-être 20 ou 30%, à côté des Kurdes et des Turcs, mais avec, dans la politique arménienne, l'organisation arménienne était très forte au niveau de l'éducation et des écoles, au niveau des écoles générales et des écoles techniques. C'était ce qui fait que, dans cet empire ottoman du début du XXe siècle, dans les années 1890 et 1910, il y avait une très forte domination dans les milieux ruraux de l'artisanat, de l'éducation, des métiers techniques arméniens.
Voilà. Le tout lié un petit peu à la religion. Il y avait un ferment en religion chrétien assez fort, d'après ce que j'ai
vu. Disons, ils étaient chrétiens, mais ils avaient, parce qu'ils étaient organisés par un clergé, ce clergé avait la volonté d'éduquer la population. Donc, il créait des écoles, il gérait ces écoles de façon très ferme et la plupart des jeunes Arméniens allaient à l'école. Alors que l'Empire ottoman, vis-à-vis des populations rurales musulmanes, sélectionnait des gens pour faire des guerriers, faire des militaires, faire des comptables fiscaux, etc. C'était pour l'essentiel, c'était l'éducation pour des militaires et pour des gestionnaires de la fiscalité, de la collecte des impôts.
Oui, très bien. On passe ça tout de suite.
Chant sacré et populaire arménien.
So
Après cette petite pause musicale, Bernard, est-ce qu'on peut reprendre ? J'ai envie de te lire une citation. Et c'est toi qui vas nous dire ce que tu en penses. Je vais te lire une citation qui concerne les accords Sykes-Picot. Et elle est d'un historien qui s'appelle Henri Laurence, qui est professeur au Collège de France. Je te lis. Alors, c'est issu d'un de ses ouvrages qui s'intitule « La question de la Palestine ».
En 4 ou 5 volumes, hein. C'est
oui.
Plus de 3000 pages.
Voilà, j'invite tous nos auditeurs à aller lire. Ça doit sûrement être à l'Institut du Monde Arabe. Je vais les avoir à Paris et puis certainement à Marseille. Il faut peut-être rechercher. Ils sont peut-être quelque part aussi. Périodiquement, le sceptre d'un nouveau Sykes-Picot ou partage du Proche-Orient imposé de l'extérieur ressurgit. La prétention occidentale d'une supériorité morale fondée sur l'application de la démocratie et du libéralisme apparaît alors comme une sinistre mystification. C'est peut-être la conséquence la plus néfaste des choix de la période 1916-1920, régulièrement renouvelée depuis. Et ensuite, dans un article que j'ai de Henri Laurence qui s'appelle « Comment l'Empire ottoman fut dépecé du monde diplomatique », avril 2003, il part de Laurence d'Arabie, qui est un personnage à analyser et peut-être à remettre à sa juste place. Il a été très légendé, très, très assimilé à une légende tirant plus davantage du merveilleux ou du mythe que de la réalité. Et que donc Laurence d'Arabie aurait prôné pour une nation arabe bédouine ou une renaissance arabe en mettant en valeur l'idée d'une grande Syrie sous administration française. Et il faut savoir que Laurence d'Arabie était... Moi, je le considère comme ça, l'homme de main des Anglais, qui parlait parfaitement la langue arabe, qui connaissait parfaitement la culture arabe et qui a largement contribué à adoucir et assagir nos dirigeants arabes de l'époque pour qu'ils se plient à cette colonisation. Est-ce que tu peux, Bernard, rebondir là-dessus, notamment sur la citation que j'ai faite d'Henri Laurence ?
Oui, cette prétention des pays occidentaux d'Europe et des États-Unis à vouloir modeler le reste du monde à leur image, d'imposer la démocratie, couvrait en fait, et on en a longuement parlé, des intérêts. Et les déclarations de Woodrow Wilson, le président américain, juste un peu avant la guerre et après la guerre, de la porte ouverte, et des fameux points, 14 points, d'obtenir la liberté, c'était pour avoir la liberté de commerciale, parce qu'ils savaient que les Occidentaux, les Allemands, les Anglais avaient une certaine avance dans la région, et les Anglais voulaient participer à des implantations commerciales, donc ils voulaient une porte ouverte, le libéralisme. Voilà. Il faut dire aussi que dans toutes les déclarations de Woodrow Wilson, donc ce président américain des années... il a été réélu en 1916... Il parlait des backward people, des peuples attardés dans ses déclarations, hein, et qu'il fallait conduire à la lumière de la civilisation et tout ça. Et d'ailleurs, quand les Italiens, eux, ont conquis la côte libyenne, ont débarqué en Libye en 1911, j'ai une revue de l'époque, le miroir d'histoire ou l'illustration, on voit sur la couverture en couleur un dessin où un bel officier italien, sabre au clair, débarque de ses bateaux et les Arabes bédouins derrière détalent. Et donc la légende, c'est que l'Italie amène la lumière, la civilisation dans un pays attardé.
Oui,
or, en fait,
très colonialiste.
C'est très colonialiste. Et ils étaient là, en fait, pour développer les cultures d'olivier, exporter de l'huile et tout ça. Moi, j'ai travaillé quelques années, en quelques mois, en plus en Libye. J'ai bien vu tous les restes de ces colonies. Et les Grecs aussi, quand ils ont été poussés par les Anglais à débarquer dans l'Empire ottoman, après l'armistice de 1918, c'était aussi pour reprendre pied dans leur plantation de plantation d'olivier, qui était très célèbre, qui était bien gérée, mais dans lequel il y avait eu des Grecs ottomans qui avaient développé tout ça, les fabriques de tapis, tout ça. Donc il y a beaucoup d'intérêts commerciaux qui sont cachés sous des grandes déclarations de principe, et ça continue malheureusement encore aujourd'hui. On prétend développer la démocratie, mais en fait, on la livre avec un tapis de bombe et avec beaucoup de souffrance des populations.
Oui, et j'ai l'impression qu'actuellement, on est encore plus pragmatique qu'avant, quoi. Enfin, moi, c'est l'impression que j'ai. On a eu la période de la SDN, ensuite la période de l'ONU. Aujourd'hui, tu la qualifierais comment, notre période actuelle ?
On est dans le mondialisme, c'est-à-dire il y a une liberté totale pour la finance, aucune taxe pour les transactions financières. L'argent peut se déplacer d'un pays à l'autre dans les fonds d'investissement. Et donc les gens qui ont beaucoup d'argent peuvent optimiser leur placement, jouer sur les différences fiscales dans un pays à l'autre, au détriment des populations qui, elles, ne peuvent changer de pays qu'avec des grands risques. On l'a vu, les 11 000 morts qu'il y a eu l'année dernière, depuis 3 ans, dans les eaux de la Méditerranée, par des gens qui veulent migrer pour fuir la guerre, fuir des exactions ou trouver des possibilités de travail plus importantes, dans lequel un pays, la zone industrielle de Syrie a été bombardée, il y a beaucoup moins, peu d'emplois, etc. Donc il faut bien voir que nous payons par l'immigration les fruits de nos, enfin les conséquences de nos exactions, de nos mauvaises diplomaties, d'influence, d'actions secrètes, de volonté de changement de régime qui sont avérées. Aux États-Unis, on le sait, ça a été écrit, ça a été publié. Les néocons qui influençaient la politique du temps du père de Bush, fils de George W. Bush, voulait changer les régimes dans 8 pays, la Somalie, la Syrie, l'Irak, l'Iran, etc., avec des vues complètement extraordinaires, mais qui, idéologiques, mais qui couvrent en fait des intérêts géostratégiques sur les ressources minérales, sur les ressources en eau, le contrôle des territoires, et puis les résultats des rivalités avec l'Empire chinois, avec l'Empire russe actuel. Voilà.
Finalement, à notre époque, on est pratiquement en 2015, on est en 2016, pardon. Nous, et puis on reviendra d'ailleurs sur notre période, notamment ce qui se passe en Syrie actuellement avec l'EI. Je voudrais quand même te poser une question qui va te paraître peut-être un peu trop large, un peu trop sujette à controverse, mais je vais te la poser quand même. Je parlais tout à l'heure de Laurence d'Arabie, j'ai parlé de Henri Laurence. D'ailleurs, tu n'as pas rebondi sur ma citation, elle ne t'a pas plu ?
Laurence d'Arabie, enfin, plutôt Henri Laurence, il a parlé du défaut des pays occidentaux de vouloir imposer la démocratie, diviser les régions, etc., contrôler la région. Les accords Sykes-Picot, ce n'était pas un espoir, c'était un partage des futurs buts de guerre dans une guerre qui, à l'époque, en 1916, 15-16, on ne savait pas comment ça allait aboutir, mais chaque pays, les alliés français, anglais et russes, tsaristes à l'époque, espéraient bien gagner la guerre. Et d'ailleurs, ils l'ont gagné parce que, en 1916, les gestionnaires de la dette anglaise, britannique, qui était la banque JP Morgan et le groupe Rothschild aux États-Unis, ont négocié discrètement pour faire convaincre l'Amérique de venir entrer dans la guerre au secours de l'Angleterre, mais avec la promesse d'un partage des dépouilles de l'Empire ottoman et du pétrole et des zones des territoires, d'où la déclaration de porte ouverte, politique de la porte ouverte, du futur président, enfin du président réélu en décembre 1916. Voilà, donc ça, c'est cette critique d'Henri Laurence sur les volontés.
Tu cautionnes.
Je les cautionne, je suis tout d'accord, tout à fait.
Très bien. Une question. Alors, ma question, ma fameuse question qui porte à controverse, c'est qu'est-ce que toi, tu envisagerais comme réponse à la question suivante ? Qu'est-ce que c'est que l'arabité ?
Alors, il y a une réponse un peu historique d'un Syrien qui s'appelle Sati al-Husri, qui était spécialiste de l'éducation en Syrie, mais qui a été détaché en Irak. Il est devenu directeur général de l'éducation. C'est lui qui a refondu un peu les programmes éducatifs pendant le mandat anglais. Il a dit « l'arabité vient de la langue ». C'est la langue arabe qui fait le caractère, la culture arabe. C'est assez simple, mais voilà.
N'est donc pas le nomadisme.
Disons, c'est le peuplement des pays arabes actuels, des pays de la Ligue arabe, Il y a plusieurs composantes. Il y a la composante, disons, montagnarde, rurale, qu'on trouve dans les montagnes de Syrie ou Liban, avec parfois des gens qui viennent un peu plus loin, soit des montagnes de Turquie, soit même du Caucase. Et puis, mais qu'il y avait une souche locale. En Palestine, il y a des gens depuis des milliers d'années qui sont toujours près de leurs oliviers, de leurs terrasses et de leurs villages. De même en Syrie, de même au Liban. Comme on en trouve aussi les peuplements berbères dans les montagnes du Maroc ou d'Algérie. Voilà. Donc on a aussi le peuplement qui vient de l'Arabie, du Yémen, pays de montagne aussi, avec un très vieux peuplement, mais avec beaucoup de gens qui étaient marins et qui faisaient du commerce maritime jusqu'aux îles de la Sonde, l'Indonésie, et jusqu'à Zanzibar, pour commercialiser des produits et de l'encens, par exemple. Enfin, bon. Mm-hmm. Et on a un peuplement de tribus nomades, alors qui étaient, eux, des nomades qui s'occupaient de moutons et qui faisaient du commerce entre les oasis, entre la côte du Golfe et la côte de la mer Rouge, avec aussi du cabotage et tout ça. Donc, ce sont des peuplements qui étaient anciens aussi et qui se sont mêlés au moment de l'expansion de l'islam au 7e siècle, qui se sont mêlés aux populations locales, palestiniennes, ensuite égyptiennes, ensuite au Maghreb, et après jusqu'en Turquie. Donc on a des peuplements très, très mélangés au niveau, disons, ethnique, qu'on peut reconnaître quand on va en Syrie ou au Liban. On voit des physiques, disons, très différents, de nature très différente, selon les différentes composantes de la généalogie, des ascendants des personnes qu'on a avec nous. Et au niveau de la langue, l'arabe a submergé les anciennes langues comme l'araméen, mais on a des subsistances de l'araméen dans certaines populations yézidis, dans certaines populations de Syrie. Mais l'arabe s'est propagé rapidement, grâce aussi à l'influence du Coran, de l'apprentissage par cœur. Donc, comme en France, le latin était rapidement submergé par la langue locale et les mélanges. Bon, voilà. Donc, mais il y a des grandes différences aussi dans les dialectes, entre les dialectes parlés au Maghreb et les dialectes parlés dans le Golfe ou en Irak. C'est très différent. Mais les gens ont un sentiment, parce qu'ils étaient tous dans l'Empire ottoman, parce qu'ils avaient des échanges commerciaux, familiaux, des échanges, les gens se mariaient entre eux, voyageaient, il y a quand même le sentiment d'une culture commune qui transcende le nationalisme local. Alors, il faudrait revenir aussi sur l'émergence de l'ahnahda culturelle, l'émergence du nationalisme au XIXe siècle dans les pays arabes, grâce à l'influence de l'éducation, des voyages en Occident. Et ensuite, l'émergence du parti basse. Parti basse, ça veut dire la résurgence ou la renaissance, la résurgence, et qui est un mouvement dans lequel il y avait des gens parlant arabe, mais qui étaient d'origine syrienne ou irakienne. Les gens se sont mélangés, avaient une conscience commune, et dont on appelle le nationalisme arabe international, disons, couvrant l'ensemble des pays arabes. Ça a été une volonté exprimée, surtout au niveau du Proche-Orient, disons, justement, au moment de cette guerre européenne de 14-18, et des négociations secrètes, des traités Sykes-Picot, des négociations entre MacMahon, le résident britannique au Caire, et le shérif Hussein de la Mecque, promettant donc au shérif Hussein d'essayer de créer un État arabe unique, pour pouvoir convaincre Hussein de mobiliser ses troupes, ses bédouins armés, avec les armes britanniques d'ailleurs, pour participer à la lutte contre l'Empire ottoman dans les provinces de Palestine et de Syrie. Voilà. Donc, les gens ont eu conscience de ces promesses, notamment après la révélation des accords Sykes-Picot par les bolcheviks, par Trotsky, qui a publié tout ça. Il a critiqué, il a dénoncé comme un pacte colonial secret. Voilà. Et après, il y a eu quand même des perceptions plus nationalistes locales, du bas syrien, du bas irakien. Mais tout ceci était un peu entretenu des divisions de l'extérieur par des rivalités, soit par les personnalités un peu orgueilleuses qui chacune voulait dominer les choses. Il y a eu des tentatives d'union entre différents pays, mais qui étaient souvent sabotées soit par l'intérieur, soit par l'extérieur, pour les intérêts, les rôles des services secrets, de fausses publications, voilà, des attentats attribués à l'un ou à l'autre. sans que ce soit vraiment...
Ça, si tu permets, nous allons y revenir, bien entendu, puisque effectivement, il y a eu beaucoup de mensonges, beaucoup d'informations faussées, truquées, tronquées. Actuellement même, on ne peut pas être sûr d'être bien informé sur la situation au Moyen-Orient si on n'a pas diversifié ses lectures, ses sources d'informations, rencontré diverses personnes de différents bords, afin de se faire sa propre idée. Je pense que c'est une nécessité de faire preuve d'esprit critique et de ne juger que par soi-même. Voilà. Donc, surtout sur cette question-là. Or, effectivement, Bernard, si tu pouvais, après qu'on ait mis une dernière petite pause musicale, parce que l'émission est bientôt finie, mais on en aura une autre, on ne quitte plus Bernard, on va mettre une petite pause musicale, c'est l'heure. Un makam irakien, tu nous expliques d'où ça vient, s'il te plaît, merci.
Alors, le makam, c'est une forme musicale assez formatée, mais qui a différentes variantes selon les provinces. Et donc, il y a beaucoup de types de makam. Mais c'était pratiqué dans l'Empire ottoman et en Irak, très largement, dans les cafés. Il y avait de très bons chanteurs, des petits groupes de 4-5 musiciens. Et c'était repris en chœur par l'assistance, avec beaucoup donc d'interactions entre le groupe de musiciens et de chanteurs et l'assistance. Vous voyez, c'est pas, on n'a pas ce silence qu'on observe dans les salles de concerts européennes, où on n'interrompt pas le musicien ou les chanteurs, on applaudit seulement à la fin. On n'a pas ça en Orient. En Orient, il y a une très forte émotion, très forte partage entre... ça ressemble plus donc, aux salles de musique pop où les gens se mettent à crier avec les chanteurs. Voilà. Donc ça, c'était dans la musique des cafés de Bagdad. Moi, je l'ai vécu moi-même dans de belles salles en Irak, dans les années début des années 80. Et on va entendre donc un chanteur très célèbre de makam, Youssef Omar, qui est décédé. C'est un enregistrement de 1972 avec un petit groupe de musiciens qui jouent de la musique. Donc là, on n'entend pas les réactions de la salle parce que c'était enregistré en studio, mais c'est de la musique qui était très appréciée à Bagdad dans les années 60, 70, 80 même. Donc Youssef Omar, un makam de type Rast.
چل علي يا الرمان نومي في زغلي وهذا الحلو ما ريده ودوني الجروف والماي غطى وصدتني بين الجروف والماي غطى وصدتني تكسر جنا وعد سيد سادات فكا حزم جن
merci pour cette écoute de la musique exceptionnelle aujourd'hui avec une émission spéciale Moyen-Orient sur la question du partage des territoires et des enjeux géopolitiques au Moyen-Orient, sachant que pour comprendre le présent, il faut connaître l'histoire. Donc c'est pour ça que nous faisons cette émission, qui n'est pas la première. Je conseille à nos auditeurs d'aller regarder sur nos enregistrements le site internet de Radio Galère. Vous regardez émission Mai de Résistance avec mon nom, mon prénom, Noura, puisque je suis l'animatrice de cette émission qui est sur vos ondes tous les deuxième et quatrième lundi de chaque mois, de 19h à 20h. Et en écoutant, en réécoutant les émissions, vous chercherez bien celle qui concerne Bernard Cornu, qui est venu spécialement pour nous parler, nous donner un petit aperçu, hein, que petit, de l'étendue de ses connaissances sur ces territoires-là. Et Dieu sait s'il y a des choses intéressantes, si c'est riche. Donc c'est une manière originale de s'instruire que d'écouter ces bandes.